www.radioscoop.fr. Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Première partie.
Bonjour ou bonsoir. Né à Paris le 9 janvier 1908, autrement dit il y a 100 ans, et décédé le 16 avril 1986, reçu seconde à l'agrégation de philosophie en 1929, derrière Sartre, premier et Nizan cinquième, Simone de Beauvoir fut philosophe. Cofondatrice avec Sartre en 1945 de la revue Les Temps Modernes, c'est d'ailleurs elle qui en France découvrit Hegel et le fit découvrir à Sartre, tandis qu'il était pris par la guerre. Et quand elle écrit en 1947, pour une morale de l'ambiguïté, elle décrit le nihilisme, l'aventurier, l'esthète, et au-delà de ces types moraux, en revient à l'éthique existentialiste, conquête permanente de la liberté et volonté de maintenir vivant le projet libre contre tout esprit de sérieux, contre tout reniement de la liberté au profit de valeurs ou de fins jugées absolues. Mais plus qu'une philosophe, Simone de Beauvoir fut d'abord un écrivain, comme si, pour citer Pascal, la vraie philosophie se moquait de la philosophie. Dans son autoportrait à 70 ans, repris dans Situation 10, Sartre avoue ne pas avoir la curiosité des gens. Simone, elle, voulait se faire exister pour les autres en leur communiquant le goût de sa propre vie. Maintenant, on ne peut pas évoquer la figure et l'œuvre de Simone de Beauvoir sans parler, bien sûr, du féminisme et de cette bible du féminisme qu'est le deuxième sexe. Publié en 1949, le deuxième sexe va marquer profondément toute une génération de femmes, en premier celle des années 70, consciente de beaucoup de voir à la thématique de Beauvoir, pour qui la femme désigne une idée historique, non point une essence naturelle et une réalité figée. Écoutez d'ailleurs ce que déclarait Simone de Beauvoir en 1970 à Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui lui rappelait cette formule désormais connue de tous: on ne naît pas femme, on le devient.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses, et ce qu'elle signifie est très simple: c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définissent la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas, ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition.
Simone de Beauvoir répondant à Jean-Jacques Servan-Schreiber, une interview diffusée et publiée par la chaîne de télévision Arte à l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain. Julia Kristeva, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un honneur et un bonheur de vous recevoir. Dois-je rappeler que, comme Simone de Beauvoir, vous êtes un grand écrivain, né en Bulgarie, travaillant et vivant en France depuis 1966, écrivain mais également linguiste et psychanalyste. Vous êtes l'auteur de nombreux essais, romans traduits et étudié dans le monde entier. Professeur à l'Institut universitaire de France et à l'Université Paris 7 Denis Diderot, vous enseignez également aux États-Unis et au Canada. En 2004, vous avez reçu le prestigieux prix Holberg pour l'ensemble de votre œuvre et en 2006, le prix Hannah Arendt. Mention toute particulière aujourd'hui à votre trilogie consacrée au génie féminin, publiée chez Fayard, car dans le dernier volume volume, vous revenez sur la figure de proue des féministes qu'a été Simone de Beauvoir. Et cette semaine, très précisément mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 janvier, vous allez présider un colloque international consacré à cette personnalité phare de l'histoire intellectuelle du XXe siècle occidental qu'est Simone de Beauvoir. Alors d'ores et déjà, mais je le redirai en fin d'émission bien sûr, notez que ce colloque est ouvert à tous. Il va se dérouler 15 rue de l'école de médecine, dans le 6e arrondissement parisien. Deux conditions seulement à remplir, s'inscrire obligatoirement sur le blog http://2008beauvoir, tout ça en un mot, hein, 2008beauvoir.blogspot.com, et puis s'acquitter d'un droit d'entrée relativement modique finalement de 20 € pour 3 jours ou de 10 € si vous êtes étudiant. Julia Kristeva, je dois d'abord faire une rectification. J'ai rappelé que Simone de Beauvoir avait été reçue en 1929 deuxième à l'agrégation de philosophie. C'est faux. En fait, elle et Sartre étaient tous les deux premiers, mais il existait en 1929 une étrange discrimination. Les filles, peu nombreuses, étaient classées en surnombre et se voyaient reléguées automatiquement à un rang inférieur. Dites, Julia Kristeva, nous sommes en quelque sorte au cœur même de notre sujet.
Oui, tout à fait. La discrimination, d'une certaine manière, a été atténuée, mais elle est toujours sournoise. Et ce colloque dont vous avez parlé, moi j'aimerais bien le mettre sous le signe d'une phrase que beaucoup de femmes connaissent du deuxième sexe, qui dit la chose suivante: la femme libre est seulement en train de naître. Donc ce combat continue. Et cette liberté, cette égalité, cette spécificité des femmes est à reconnaître tous les jours, y compris dans les démocraties occidentales avancées.
Alors, je ne crois pas qu'il faille réduire Simone de Beauvoir au deuxième sexe, mais enfin, à une époque, le livre va faire scandale. Ce scandale aidant, il faut quand même rappeler quelques chiffres. 22 000 exemplaires du premier tome vont s'enlever en une semaine. 2 millions d'exemplaires seront vendus en langue anglaise. Et le deuxième sexe va figurer pendant un an en tête des ventes au Japon. Simone de Beauvoir a 37 ans. Elle devient l'écrivain féministe la plus lue au monde. C'est la première fois qu'une femme et une philosophe osent revendiquer non pas quelques droits pour quelques femmes, mais l'égalité absolue, et aborder les problèmes de la liberté sexuelle, de la maternité, de l'avortement, sans oublier l'exploitation ménagère. En 2008, Julia Kristeva, vous en disiez un mot, mais enfin, on mesure mal, me semble-t-il, le choc du deuxième sexe. On le mesure d'autant moins que son auteur, et bien sûr c'est une question que je vous pose, me semble de nouveau être d'abord appréhendé comme la compagne de Jean-Paul Sartre.
Oui, vous avez probablement raison. Moi, je suis de celles et de ceux qui considèrent encore et toujours que nous lui devons beaucoup et que, loin d'être seulement la compagne de Jean-Paul Sartre, c'est quelqu'un qui nous aide à vivre aujourd'hui et que son combat est toujours d'actualité. Mais j'essaie de me placer, en vous écoutant, dans cette période 1949, la publication du deuxième sexe. Le pays, mais aussi l'Europe et le monde sortent d'une guerre. La Shoah est tout près. Et il y a quand même un vent de liberté qui souffle dans le monde. C'est l'arrivée du jazz, enfin, une espèce de joie de vivre aussi. Et cette femme qui a une éducation bourgeoise, aristocratique d'une certaine façon, aussi catholique, est en rupture de banc par rapport à cette tradition. Elle affirme des valeurs tout à fait nouvelles et en même temps avec une sorte, je dirais, de continuité avec une tradition française de la femme libre. Et c'est peut-être ça qui fait qu'elle devient tout de suite l'égérie de Saint-Germain. Les Français se reconnaissent. Elle est à la fois la Française excellente, magnifique, libre, telle que la tradition de Madame de Sévigné à Louise Michel nous l'a manifestée, et en même temps elle montre quelque chose de tout à fait inattendu. Donc elle était au rendez-vous en quelque sorte.
Elle était au rendez-vous et à la fois elle est terriblement en avance, parce que ce livre ne fait pas partie fille d'une vague féministe organisée, ça n'est pas le manifeste d'aucun mouvement, sa publication précède de 20 ans la naissance du MLF, le mouvement de libération de la femme en France, et plus de 10 ans l'apparition aux États-Unis d'un livre évidemment que vous connaissez bien, qui est au fond la deuxième œuvre féministe importante du XXe siècle, La femme mystifiée de Betty Friedan.
Oui, non, mais ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que Simone de Beauvoir n'est pas féministe. Le féminisme est venu après elle. C'est suite au deuxième sexe que le mouvement féministe a pris corps. Il y a eu avant elle le mouvement des suffragettes. Moi, je dis souvent que l'histoire du féminisme récent a trois étapes. La première, c'est en effet les suffragettes et tout le travail que les Anglaises, les Américaines, tout ce monde anglo-saxon a établi, suite peut-être aussi au protestantisme qui donne une autre place à la femme. Ensuite, il y a Simone de Beauvoir qui fait un acte quasiment individualiste, existentialiste et d'écrivain. Et la troisième étape, ce sera le féminisme tel qu'on va l'entendre dans la foulée de 68 en France, Betty Friedan, mais aussi d'autres. Et le mouvement va se cristalliser après. Ce qui est très intéressant dans son livre, c'est que tous les exemples qu'elle donne, toute la chair du livre est tissée d'aventures individuelles qu'elle prend à l'histoire de l'Occident essentiellement. Ça va du cantique des cantiques en passant par Sainte Thérèse d'Avila, Thérouanne de Méricourt, Colette, etc. Ce sont des femmes qui, malgré la condition féminine qui les condamnait à la marginalité ou à l'esclavage d'une maternité mal sentie et toujours douloureuse, ont réussi à faire une œuvre. Et c'est cette créativité qu'elle incarne. Et c'est ce côté individuel, romanesque presque, qui a porté ces thèses de libération. Donc le militantisme était très incarné. On l'a lu aussi comme une histoire individuelle.
Alors avec le deuxième sexe, c'est évidemment le second tome, celui de la sexualité féminine qui va mettre le feu aux poudres. Mais avec le deuxième sexe, Beauvoir fait aussi preuve d'audace théorique. Elle va essayer de marier deux irréconciliables, ou quasiment, le marxisme et la psychanalyse.
Tout à fait. D'ailleurs, on verra les premiers personnages de psychanalystes dans ses romans. Elle était très intéressée. Tout à l'heure, dans le petit extrait de son intervention avec Sylvain Schreiber, on l'avait entendu. Elle est très intéressée par la découverte freudienne de l'inconscient et par les libérations sexuelles que cela supposait. Et en effet, il y a dans la morale existentialiste un accent mis sur la situation dans laquelle chaque individu réalise sa liberté. Et la liberté est identifiée avec le bonheur. D'ailleurs, à partir de là, elle va se demander comment réaliser les conditions nécessaires pour que cette liberté individuelle puisse avoir lieu. Et ces conditions, évidemment, à partir de là, on regarde du côté du marxisme. D'où la rencontre entre la liberté individuelle, côté existentialiste, et le souci de s'intéresser aux luttes de classe, de sexe, de groupe, d'exclus, comme on dira plus tard, et qui sont en arrière-plan de son raisonnement.
Alors il y a dans le deuxième sexe un double passage particulièrement mobilisateur. Il est consacré à la lesbienne et à l'avortement. D'ailleurs, ces deux passages sont parus dans les temps modernes avant la sortie du livre. Cela étant, Julia Kristeva, comment expliquez-vous que Beauvoir a occulté son rapport intime au lesbianisme ?
Il y a beaucoup de contradictions dans son texte et ces contradictions font à la fois le charme et toute la conflictualité de son œuvre qui suscite évidemment beaucoup d'adhésion et vous le dites, il continue à être un phare pour nous toutes et en même temps ça a été beaucoup discuté par la suite du féminisme et par les femmes dans l'histoire moderne. Elle a fait scandale en effet parce qu'elle a voulu montrer que la liberté sexuelle est possible pour les femmes et aujourd'hui on peut le dire plus ou moins encore qu'il y a beaucoup de retours en arrière, mais dire à l'époque que les femmes peuvent refuser la maternité, qu'elles peuvent avoir des relations homosexuelles, qu'elles peuvent avoir aussi des amants, et elle l'a manifesté avec son propre comportement, c'était tout à fait inattendu. Alors, dans ce contexte, elle a eu une attitude, je crois, assez pudique, pour ne pas employer de mots plus techniques et psychanalytiques de déni, comme on l'accuse aussi, et ce n'est pas tout à fait indéfendable, par rapport à la féminité maternelle. On peut expliquer ça à partir de ses rapports conflictuels complexes avec sa mère. On peut expliquer ça par rapport à un désir de s'identifier à l'homme qui est le maître de la pensée, et Sartre est le parangon de cette maîtrise. L'homme est pour elle non seulement le frère avec lequel on doit être égal, mais aussi l'universel. Et donc la femme doit être égale à cet homme-là pour pouvoir s'imposer. Et dans cette première phase donc, du féminisme, ce souci d'égalité, ce souci d'universalisme se paye par une sorte de déni, je dirais en effet, j'emploierai le mot, de la sexualité féminine. Elle parle du sexe féminin comme quelque chose de visqueux, de menaçant, de flasque. Enfin, il y a des images extrêmement négatives qui la renvoie à une dépréciation de la femme traditionnelle. Alors que ce que nous avons fait dans notre génération, c'est de dire il n'y a rien de négatif là-dedans, il y a une joie aussi d'être femme, y compris dans les règles. Donc dans cette sensualité féminine, elle a eu du mal à se reconnaître par identification avec les hommes. Mais moi, je ne jetterai pas la pierre parce que je pense que c'était nécessaire pour affirmer une autonomie et une combativité.
Julia Kristeva, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de parler de l'écrivain en 2008, non pas pour occulter évidemment le deuxième sexe, il reste à bien des égards, vous l'avez dit, très actuel, mais pour en agrandir la portée. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, au fond, le deuxième sexe, c'est le livre de l'altérité en général, Simone de Beauvoir essayant de résoudre un problème, on dira philosophique, en disant que si l'autre n'est pas sujet, il n'a pas d'histoire.
Je crois qu'elle a une vision de l'altérité qui a tendance à occulter la différence. C'est un autre sujet, mais ce n'est pas un sujet différent du masculin. Elle est dans une optique universaliste. Nous sommes tous des sujets. La femme doit devenir sujet, mais elle ne conçoit pas ce que nous pouvons faire avec la psychanalyse, que le sujet homme n'est pas le sujet femme. Et c'est un débat encore actuel. Le féminisme se divise sur ce thème. Il y a celles qui pensent que tous les sujets se valent, hommes et femmes, quand ils sont sujets, c'est pareil. Moi, je suis de celles qui pensent qu'il y a une différence qui se manifeste au niveau de la sensualité, au niveau du rapport au langage, qui n'est pas forcément plus positive ou plus négative, il n'y a pas de hiérarchie, mais je pense que c'est une richesse et que c'est ça que notre génération essaye d'apporter. Mais c'est en débat avec Simone de Beauvoir qu'on le fait et ne pas à l'encontre.
Benoît Tegrou a dit que cette pensée de l'altérité avait déclenché une épidémie de liberté. Alors, et si Simone de Beauvoir était d'abord le chantre de la liberté absolue ?
Je pense que c'est une altérité qui voulait que la femme soit libre comme l'homme. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça a en effet déclenché des scandales. Et ça a conduit aussi à dénier ce que la femme a de différent. C'est une autre liberté maintenant qu'on peut peut-être demander, qui reconnaisse à la fois cette liberté et cette différence.
Je rappelle avant la pause que votre discours que vous avez prononcé lors de la cérémonie du prix Holberg le 3 décembre 2004 à l'université de Bergen était intitulé « Penser la liberté en temps de détresse ».
Oui, je pense que la liberté continue à être notre préoccupation. Elle prend des risques, celle ou celui qui veulent la liberté. Mais comment admettre que la liberté des femmes exige des éléments nouveaux qui diversifient le monde et qui ne sont pas forcément les mêmes que les libertés de l'homme? À partir de là, la femme mère, la femme écrivain, la femme lesbienne, la femme poète peuvent être peut-être vues d'une manière plus spécifique.
Eh bien, Julia Kristeva, nous allons maintenant faire une pause et faire place au journal, mais bien sûr, vous restez avec nous et dans une dizaine de minutes, vous allez continuer à célébrer Simone de Beauvoir, son rôle militant, sa pensée novatrice et son talent d'écrivain qui en font l'une des personnalités les plus attachantes du XXe siècle. Alors, je rappelle que vous allez présider mercredi, jeudi et vendredi prochain, autrement dit les 9, 10 et 11 janvier, un colloque international consacré à l'écrivain. Il va se tenir au réfectoire des Cordeliers, 15 rue de l'école de médecine dans le 6e arrondissement parisien, colloque ouvert à tous mais avec une inscription obligatoire. Pour cela, vous allez sur le site 2008beauvoir.blogspot.com, 2008beauvoir.blogspot.com. A noter que beaucoup d'éditeurs ont tenu à marquer comme il se doit le centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir. Il ne m'est pas possible maintenant de signaler les parutions parmi les plus importantes, écrites ou audiovisuelles, mais sachez que toutes les références figurent sur notre site rfi.fr. Mais si vous avez besoin de renseignements complémentaires, bien sûr, vous nous écrivez idée@rfi.fr. Ce numéro d'idée est mis en onde par Thomas Ferrière, réalisé par Patricia Lecomte. Vous restez à l'écoute, nous vous retrouvons dans 10 minutes immédiatement après les dernières informations.